Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Aujourd'hui, voici l'objectif que je poursuis et je vais vous demander de prendre des notes parce que vous passerez à côté du culte si c'est simplement ma voix que vous entendez. Il faut qu'au-delà de ma voix, vous entendiez celle de Dieu. Et quand Dieu vous parle, c'est important d'écrire. Écris la vision, écris le futur, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie, c'est un futur dont le temps est déjà fixé. Voici l'objectif que je poursuis en ce jour. Provoquer chez vous le désir d'appartenir à une catégorie d'hommes et de femmes qui dirigent et qui dominent dans les sphères d'influence afin de pouvoir créer des changements concrets dans un monde qui semble être dirigé par le malin. Je veux provoquer chez vous un désir de faire partie d'une catégorie d'hommes et de femmes que Dieu est capable d'utiliser pour provoquer un changement concret. Que vous ne soyez pas juste des hommes et des femmes qui sont fidèles à un rassemblement religieux, mais que vous soyez des hommes et des femmes dont la vie compte dans le quotidien des hommes. Que vous puissiez laisser votre marque dans l'histoire des hommes sur la terre. S'il y a des gens qui ont créé, qui ont inventé des véhicules, des réseaux sociaux, des vêtements. Je dis que Dieu fasse de toi un inventeur. Amen. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui innove. Amen. Je dis que tu ne sois pas parmi ceux qui copient simplement, mais que tu sois parmi ceux qui créent. Amen. Tu n'as pas dit amen parce que ça ne te concerne pas, mais ton voisin doit dire amen. Je dis que tu ne sois pas juste parmi ceux qui imitent, mais que tu deviennes quelqu'un qu'on imite. Nous voulons faire de vous des kingsmen. Je sais que ça semble être écrit comme un seul mot, mais ça n'en est pas un, c'est deux mots ou trois. King, apostrophe S, et un peu plus loin, men, M-E-N, pluriel. Qu'est-ce qu'un kingsman? Men, c'est pluriel. On va apprendre l'anglais aujourd'hui. Men, E-M-E-N, c'est pluriel. C'est le pluriel de M-A-N, man. Donc, qu'est-ce qu'un kingsman? C'est un mot anglais, c'est un vocable anglais. La traduction française ou littérale serait homme du roi. Homme du roi. Donc, le mot kingsman vient, ou les mots kingsman viennent d'une série de trois films d'espionnage britannico-américains. Ces films mettent en avant une agence d'espionnage privée, une société secrète d'espions travaillant au service de leur patrie. Donc Kingsman, vous pourrez faire des recherches plus tard sur Google, parle d'une société secrète, une société privée d'espions, qui décide de se lever contre ceux qui veulent détruire la race humaine. Maintenant, si on a tiré ce mot ou ces mots d'une série de films britannico-américains, donc anglais-américains, la pensée de Kingsman est bel et bien dans les Saintes Écritures. C'est l'apôtre Pierre, qui nous permet d'avoir une vision de ce que nous devons être en tant que chrétiens. Le texte que j'ai lu avec vous dans 1 Pierre 2, 9, il dit... Vous êtes, nous sommes, une race élue. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes une race élue. Je n'ai pas le temps de développer, je vais juste les citer, mais je veux que vous sachiez que quand on dit race élue, c'est qu'il semble que s'il y a une race d'hommes, on parle de race d'hommes, on parle de race animale, il y a une race élue qui est différente des hommes qui vivent sur la terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Quoiqu'étant dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. une série que je vais faire, peut-être si Dieu me le permet, nous sommes des extraterrestres. Yeah. Nous vivons sur la terre, mais nous, notre origine n'est pas la terre. Nous venons de quelque part. Est-ce que vous m'entendez? Si nous sommes une race élue, nous sommes aussi un sacerdoce royal. Je sais que les mots, pour l'instant, tu n'arrives pas à les visualiser, mais ce n'est pas grave. Dis à quelqu'un à côté de toi, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. My God, I give you praise. Ça veut dire que, en tant que chrétiens, nous avons une nation, notre nation. Nous sommes une nation dans une nation. Et notre nation est sainte. Nous sommes un peuple acquis. Tout ça, c'est ce que nous sommes. Pourquoi est-ce que nous le sommes? Quel est notre but? L'apôtre Pierre dit, notre but, c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Deux choses que je veux que vous notiez, pour ceux qui prennent des notes. Premièrement, alors que je parle de ce texte-ci, ce que tu l'es parce que Christ t'a fait sortir des ténèbres pour la lumière. Je vais vous dire ça peut-être plus simplement. Je répète pour ceux qui écrivent. Ce que nous le sommes parce que Christ nous a fait sortir des ténèbres où nous vivions à la lumière qui est la sienne. Plus simplement, tu étais quelque chose dans les ténèbres, mais ça ne se voyait pas. Vous devez savoir que la lumière ne crée pas, la lumière révèle. Si on éteint les lumières, on sera toujours là, mais on ne verra pas correctement ce qui est là. La lumière vient donc pour qu'on voit clairement ce qui existe. Quand tu vivais dans les ténèbres, ton potentiel, ton identité ne se voyait pas. Dieu, pour que tu puisses être un instrument entre ses mains, devait t'emmener d'abord à sortir des ténèbres. Je vais essayer de dire les choses que je vais dire dans un langage accessible à tous. Il y a des choses que Dieu ne crée pas quand il fait noir. Au commencement, la Bible dit qu'avant de créer les animaux, avant de créer les hommes, il dit que la lumière soit. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans la lumière. Il y en a d'autres qui sont faites dans le noir, mais il y en a que Dieu ne fait pas tant qu'il fait noir. Jésus dit, pendant qu'il fait jour, il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce qu'il arrive un moment où personne ne peut travailler. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je suis en train de te dire que si tu n'es pas en Christ, si tu es toujours dans les ténèbres, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a une vie que tu ne pourras pas vivre. Ça ne dépend pas de tes amis, ça ne dépend pas de ton argent. Tu as besoin de lumière. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as besoin de lumière. La deuxième chose pour ceux qui prennent des notes, c'est que ce que nous le sommes pour lui. Si tu cherches la lumière, parce que simplement tu veux qu'on voit comment tu es beau, tu es classe, tu es swag, tu es intelligent, tu es fort, c'est que tu passes à côté de la raison pour laquelle Dieu fait briller sa lumière sur toi. Si Dieu fait briller sa lumière sur toi, c'est parce qu'il veut que lorsque les hommes te voient, tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé. En d'autres termes, tu brilles parce qu'il veut que par toi, les gens le connaissent. Évêque, je suis un jeune, voici mes projets, voici mes ambitions, voici ce à quoi j'aspire. Le problème n'est pas ce à quoi tu aspires, mais pourquoi tu y aspires. Pourquoi tu tiens tant à être milliardaire? Pourquoi tu veux être le prochain Messie? Pourquoi est-ce que tu veux le micro? Pourquoi est-ce que tu veux être une femme d'affaires reconnue? Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Pourquoi est-ce que tu veux des enfants? Si la réponse n'est pas parce que je veux le faire connaître, c'est que tes motivations ne sont pas bonnes. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui pourquoi tu veux réussir. Attends la réponse. Toujours, pour avoir une meilleure compréhension de ce que nous sommes, je veux maintenant m'appuyer sur le texte, les phrases de l'apôtre Paul. Parce que quel que soit votre domaine d'activité, quelle que soit la sphère d'influence dans laquelle nous devons avoir de l'impact, il y a des valeurs, des traits de caractère que nous devons exemplifier. Que quelqu'un dise impact.
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 Si tu gifles quelqu'un assez fort, la trace de la paume de ta main reste. Si tu dois avoir de l'impact, c'est que tu dois laisser une trace. Sauf que quand tu laisses la trace, ça doit être la main de Jésus. L'apôtre Paul dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. L'apôtre Paul compare Timothée, et moi je veux comparer chacun d'entre vous à ces trois types d'individus. Premièrement, l'apôtre Paul compare Timothée à un soldat. Tu dois être un soldat. Osa, Osanaha. Un soldat, et c'est le texte qui le révèle, l'apôtre Paul dit, le soldat cherche à plaire à celui qui l'a enrôlé. Écoutez-moi bien, le soldat ne doit pas chercher à gagner des guerres. Le soldat doit chercher à plaire à celui qui l'a enrôlé. Parce que si ton seul objectif, c'est la guerre, quand celui qui t'enrôle dit « ce n'est plus le temps de la guerre, c'est la paix », tu restes quelqu'un qui veut faire la guerre. Vous m'entendez ou pas? Un soldat, c'est quelqu'un qui choisit d'obéir aux ordres plus que d'obéir à ses envies. Regarde ton voisin, lui, est-ce que tu es un soldat? Cherche un autre voisin, celui-là n'aime pas quand tu lui parles. Cherche un autre voisin. Dis-lui, est-ce que tu es un soldat? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si vous êtes des soldats, voici ce que l'apôtre Paul révèle et que je vous annonce. L'apôtre Paul dit, le soldat souffre. Si tu es un soldat, tu dois accepter de souffrir. Tu n'aimes pas la souffrance, tu n'es pas dans la bonne armée. Dans notre armée, dans notre royaume, on souffre. Dis amen bien.
Amen.
La vérité, c'est que tu dois choisir à la fin, parce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir soit pour atteindre tes objectifs, soit pour plaire à celui qui t'a enrôlé, ou tu vas souffrir parce que tu veux plaire à ta chair. De toutes les façons, tu souffriras. Maintenant, il faut choisir pour qui tu souffres. Beaucoup d'entre vous, vous souffrez pour vos parents. Vous souffrez pour vos amis. Vous souffrez pour la société. Vous souffrez parce que vous voulez plaire à des hommes qui sont inconstants. Au lieu de chercher à plaire à celui qui est constant, il dit « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. » Même si une mère est capable d'oublier son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Il faut souffrir pour quelqu'un qui aura toujours, en anglais, la version anglaise dit « he will always have your back ». Ça veut dire qu'il aura toujours tes arrières. Il sera toujours quelqu'un sur qui tu peux compter. Il sera ton arrière-garde. Bouscule quelqu'un à côté de toi, lui apprends à souffrir pour Christ. La deuxième chose importante pour un soldat, c'est qu'un soldat ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie. Écoutez-moi bien. De manière simple, le soldat, sa priorité, c'est pas qu'est-ce qu'on mange. C'est pas qu'est-ce qu'on boit. C'est pas, ah, il y a une nouvelle paire de chaussures qui vient de sortir. Il y a un nouvel iPhone qui vient de sortir. Il y a de nouvelles mèches qui viennent d'arriver. Le soldat ne réfléchit pas comme ça. Si tu réfléchis seulement en mode qu'est-ce que je peux gagner, tu n'es pas un soldat. Le soldat est conscient qu'il doit se priver maintenant parce que la patrie, celui qui l'enrôle, est plus important que tout. Quand tu es un soldat, à 4 heures du matin, tu te lèves. On te dit, on va courir sur la pluie, sous la pluie. Tu ne rechines pas, tu ne boudes pas, tu ne te plains pas. Il n'y a pas de place dans l'armée du Seigneur pour les... Oh, non, il n'y a pas de place pour les plaintes. Beaucoup d'entre vous, on ne peut... Ah, j'ai failli pécher. Je vais quand même dire, on ne peut rien faire de vous parce que vous vous plaignez constamment. Vous ne voulez payer aucun prix. Jeûne mon estomac. Donc nous, on va jeûner pour toi. Ta propre vie, tu ne veux pas jeûner. Jowanda. Ta propre vie, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Ta propre vie, ta propre vie. Ta propre vie. Ta propre vie. Parce qu'au final, qui se plaint de tourner en rond? Qui a mal? Écoute, même quand les gens t'aiment, ils ne savent pas ce que tu vis. On est d'accord de t'accompagner quand tu souffres, parce qu'à un moment, la souffrance est de l'empathie. Mais à un moment, quand tu souffres trop longtemps, les gens doivent vivre. Regarde ton voisin, dis-lui, sois un soldat. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit, suivez-moi, il dit, il parle d'un autre type d'individu, il parle de l'athlète. L'athlète, contrairement au soldat, my God, I heard you. Lui, il ne veut pas plaire à quelqu'un. L'athlète veut être couronné. L'athlète veut avoir la couronne, la médaille d'or, la coupe. L'athlète veut gagner. Regarde ton voisin, lui, dans la vie, il ne suffit pas juste de participer. Dis-lui, non, 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 dans la vie, il faut gagner. Bouscule ton voisin, dis-lui, tu n'es pas venu pour participer. Tu es venu pour remporter la couronne. Tu es venu pour avoir une coupe. Oh, je n'aime pas comment ton voisin te parle. Dis-lui, tu es venu pour avoir une médaille. Tu es venu pour avoir une couronne. C'est quoi, c'est quelle histoire que Dieu m'aide avec le temps? C'est quelle histoire où tout ce qui compte c'est de participer? Le diable est un menteur. Je dis, tu n'es pas venu sur la terre simplement pour passer. Tu es venu pour être couronné. Tu es venu pour laisser ta marque. Tu es venu pour être le meilleur que tu puisses être. Je n'aime pas comment ton voisin dit amen. Mais je cherche des hommes et des femmes dans cette maison. Je cherche des jeunes qui sont venus pour gagner. Oh là 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 là. Quand les gens essaient de te dire, toi tu veux trop gagner, tu dis, je ne suis pas venu ici pour faire le nombre. Je ne suis pas venu pour participer. J'aurai ma couronne. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Avec ma main droite levée, je dis, tu seras la première personne dans ta famille à être couronnée. Je dis, si personne dans ta maison ne sait ce que c'est que de gagner, je dis, à partir de toi, il n'y aura que des gagnants. Je dis, c'est toi qui vas enlever la honte du nom de ta famille. Assieds-toi. Donc, je dis, l'athlète veut être couronné. Et parce qu'il veut être couronné, l'athlète accepte, suivez-moi, l'athlète accepte de combattre suivant les règles. Écoutez-moi, ça veut dire que ceux qui vous disent que tu peux faire comme tu veux, tu auras quand même la victoire, ils vous mentent. Tous les combats ont des règles. Quel que soit le domaine d'activité d'un athlète, quel que soit le type de sport que l'athlète fait, que ce soit le basket, le foot, la course de fond, la course de vitesse, le marathon, le relais, quel que soit le type d'activité, il y a des règles. L'un des pièges du diable, my God, I heard you, c'est de vous faire combattre dans votre domaine avec les règles d'une autre catégorie. Le boxeur ne gagnera pas s'il se bat avec les pieds. Le boxeur, c'est les mains. Dans une autre catégorie, dans un autre sport, on se bat avec les mains et les pieds. Vous m'entendez? Si tu ne connais pas le domaine qui est le tien, tu ne connais pas les règles de ton domaine, tu peux être disqualifié alors que tu t'es préparé simplement parce que tu ne connais pas les règles. Dans le domaine de la course de vitesse, il y a ce qu'on appelle un faux départ. Ça veut dire que tu cours avant que le coup d'envoi ne soit donné. Je prie Dieu que personne ne vole ta course. Que personne ne vole ta course. Que toi-même, tu ne sois pas un frein à ta préparation. Attends le coup d'envoi. Je dis, mon frère, ne sois pas pressé de courir. Attends le coup d'envoi. Le plus important n'est pas de courir. Le plus important, c'est de courir suivant les règles. Voici comment Salomon le dit. Cantique de cantique. Il dit, je vous en prie, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ça veut dire qu'il y a un temps même où il faut aimer. Certains d'entre vous, ce qui vous a détruit, c'est que vous avez aimé trop jeune. Vous avez aimé trop tôt, je sais de quoi je parle. J'ai toujours été précoce dans ce que je fais. Certains d'entre vous, vous avez aimé trop tôt. Ton corps n'était pas prêt. Ton cœur n'était pas prêt. Ton mental n'était pas prêt.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.